Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu, en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce vendredi soir 22 octobre 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne, bienvenue dans le journal. Les grands exercices de l'armée de l'air de la République islamique d'Iran. Nous considérons le Hezbollah comme un courant politique important au Liban, a déclaré le président russe Vladimir Poutine. Frappe balistique contre une base saoudienne, 35 officiers et des soldats saoudiens tués et blessés. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. La phase principale est la phase opérationnelle du 10e exercice de l'armée de l'air de la République islamique d'Iran a eu lieu en présence du commandant en chef de l'armée de la République islamique d'Iran, le chef d'état-major général, le chef d'état-major adjoint, un groupe de commandants, les responsables des QG de Khatam al-Anbiya et de l'état-major général des forces armées. Le général de brigade pilote Hamid Vahedi, commandant de l'armée de l'air de la République islamique d'Iran, a déclaré cet exercice se déroule pour la première fois de manière décentralisée. Bénéficier d'un personnel spécialisé, jeune et vétéran, utilisant des munitions fabriquées localement et lancées à très haute puissance destructrice par les avions et les drones, l'innovation dans les actions, l'augmentation de la puissance de feu et de la précision pour frapper des cibles terrestres et aériennes mobiles et fixes, l'utilisation d'un réseau intégré de commandement et de contrôle utilisant une infrastructure sécurisée indépendante, l'exploitation de systèmes d'armes et d'équipements basés sur la technologie distribuée et numérisée, la surveillance continue du réseau en employant des équipes spécialisées dans les technologies de la communication et de l'information, la cyberdéfense et la guerre électronique constituent un des points forts de cet exercice militaire qui expose une partie de la puissance de combat de l'armée de l'air de la République islamique d'Iran, a conclu le général de brigade Vahedi. Le Hezbollah représente une grande force politique au Liban. Nous avons toujours appelé à résoudre tous les conflits par le dialogue, a affirmé le président russe Vladimir Poutine, et de souligner les opinions sur le Hezbollah varient d'un pays à l'autre, mais nous le considérons comme un courant politique important au Liban. Vladimir Poutine a déclaré que la Russie examinerait une éventuelle assistance à l'ouverture d'une enquête sur les explosions l'avion du 4 août 2022 au port de Beyrouth et qu'elle était prête à mettre ses images satellites à la disposition des responsables libanais. Nous sommes en contact avec presque tous les partis politiques là-bas et nous continuerons à le faire afin de parvenir à un règlement sans effusion de sang, a-t-il déclaré. Yémen frappe balistique contre une base saoudienne. 35 officiers et militaires saoudiens tués et blessés. Une base aérienne saoudienne a été frappée par 5 missiles balistiques tirés par les forces de Sanaa. C'est ce qu'a révélé le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yahya Sari. Avec la grâce de Dieu, l'unité des forces missiles a mené une opération importante contre une base militaire saoudienne à 10 ans située au sud de l'Arabie saoudite. 5 missiles balistiques ont atteint avec précision le quartier général du commandement, les dépôts d'armes et l'aérodrome des hélicoptères Apache, a précisé le général Sari, et d'ajouter plus de 35 Saoudiens, dont des officiers et des pilotes d'hélicoptères ont été tués et blessés lors de cette opération, selon les informations du renseignement. La Syrie réclame au Conseil de sécurité de mettre fin aux violations de l'occupation israélienne contre ses compatriotes au Golan occupé. La Syrie a réitéré sa réclamation au Conseil de sécurité d'assumer ses responsabilités et d'exercer des pressions sur l'occupation israélienne pour mettre fin à ces violations et pratiques illégales contre, en fait, les compatriotes au Golan des Syriens occupés, affirmant que toutes les mesures prises par l'occupation sont nulles et non avenues et n'ont aucun effet juridique. Lors d'une séance tenue sur la situation au Moyen-Orient, l'ambassadeur permanent de la Syrie auprès de l'ONU, Bassam Sabar, a insisté sur l'attachement de la Syrie à son droit de récupérer l'ensemble du Golan occupé, affirmant que toutes les mesures prises par Israël, la puissance occupante, sont nulles et non avenues et n'ont aucun effet juridique en vertu du droit international et des résolutions pertinentes des Nations Unies, notamment la résolution du Conseil de sécurité numéro 497 de l'an 1981. La ministre libyenne des Affaires étrangères, Najla Mengouch, a réaffirmé le rejet du gouvernement libyen de toutes sortes d'ingérences étrangères dans les affaires intérieures et du pays. Le gouvernement d'unité nationale de la Libye réaffirme son engagement permanent ferme et fort en faveur de la souveraineté, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale de la Libye et son rejet total des ingérences étrangères dans les affaires libyennes, a réclamé Mme Mengouch dans un communiqué publié à la fin de la conférence de stabilisation de la Libye qui s'est déroulée à Tripoli, la capitale du pays. Une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies effectuera les 23 et 24 octobre une visite officielle à Bamako afin d'évaluer la situation politique au Mali, a annoncé le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. L'objectif principal de cette mission est d'évaluer la situation politique, sécuritaire et humanitaire, des droits de l'homme, de développement du calendrier de la transition ainsi que l'état de la mise en œuvre des mesures prioritaires de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger par les parties signataires, a-t-il précisé dans un communiqué. Eh bien, chers amis, ici touche à sa fin notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Le Hezbollah est un courant politique important au Liban, a déclaré le président russe Vladimir Poutine, ce dont nous parlerons dans notre commentaire politique. Le Hezbollah représente une grande force politique au Liban. Nous avons toujours appelé à résoudre tous les conflits par le dialogue, a affirmé le président russe Vladimir Poutine, et de souligner les opinions sur le Hezbollah varient d'un pays à l'autre, mais nous le considérons comme un courant politique important au Liban. Vladimir Poutine a déclaré que la Russie examinerait une éventuelle assistance à l'ouverture d'une enquête sur l'explosion du 4 août de 2020 au port de Beyrouth et qu'elle était prête à mettre ses images satellites à la disposition des responsables libanais. Nous sommes en contact avec presque tous les partis politiques là-bas et nous continuerons à le faire afin de parvenir à un règlement sans effusion de sang, a-t-il déclaré. Il a également indiqué que Moscou ferait tout ce qui est en son pouvoir pour convaincre toutes les parties impliquées dans le processus politique au Liban et parvenir à un accord. Nous travaillons avec tous les courants libanais pour maintenir la sécurité, la stabilité et la paix dans le pays. Nous appelons toutes les parties à engager le dialogue, a-t-il conclu. Cependant, l'administration américaine a quant à elle recouru à toute astuce ces dernières années pour porter atteinte à la popularité du Hezbollah libanais, allant jusqu'à exercer des pressions sur les pays européens pour qu'ils inscrivent le Hezbollah sur la liste noire. Les États-Unis ont également répertorié plusieurs banques et personnalités libanaises sur la liste des sanctions pour de présumés liens avec le Hezbollah, alors que ce dernier est l'un des partis politiques les plus importants du Liban. Lors des récentes élections législatives libanaises, un grand nombre de sièges a été gagné par une coalition soutenue par le Hezbollah, en dépit des démarches hostiles américaines. Et ces propos de Poutine interviennent dans un contexte bien particulier et alors même que le Premier ministre israélien Naftali Bennett s'apprête à se rendre à Moscou pour se faire rallier de la Russie dans sa cause anti-iranienne et évidemment anti-Hezbollah. Selon le quotidien israélien Haaretz, Bennett abordera principalement deux questions, la première étant le nucléaire iranien et la seconde la présence de l'Iran en Syrie et son plan est d'y créer un deuxième front contre Israël aux côtés du Hezbollah libanais. Et le journal d'ajouter, hors la Russie qui soutient Bachar Assad à la tête du gouvernement syrien est mécontente des événements qui se sont produits ces deux dernières semaines, en particulier l'assassinat largement médiatisé de Mezhat al-Saleh, emprisonné pendant 12 ans dans les prisons israéliennes pour des raisons de sécurité considérées comme proches d'Assad. Mezhat s'est rendu en Syrie après sa libération et est devenu un député Parlement. Moscou est également irritée par l'attaque israélienne contre une usine de phosphate dans la localité d'Al-Tanf. Située proche de la frontière Syrie-Irak-Jordanie, la zone est contrôlée par les troupes américaines. Pour l'instant, on ignore si l'attaque contre Al-Tanf a été menée en raison de la possibilité d'extraire de l'uranium des roches phosphatées. Ce qui compte, c'est que la prise de position par Poutine en faveur du Hezbollah n'augure rien de bon pour le Premier ministre israélien Naftali Bennett.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, dans le débat d'aujourd'hui, il est question de Riyad qui demande la médiation de Téhéran pour empêcher la progression des Houthous au Yémen, une première, car jusqu'à présent, Riyad a tout fait pour ignorer le rôle très important et clé de la République islamique d'Iran dans la région. Alors, le sud de Marib est jusqu'ici sous le contrôle de la coalition Riyad, Washington et Londres est tombé. C'est une région clé, une province pétrolifère qui donc est sortie sous le contrôle de la coalition. Alors, jusqu'à présent, Ansar Allah a été capable de contrôler strictement par des radars la quasi-totalité du Yémen et n'arrête pas de faire tomber des drones de la coalition et même a détruit un F-15 dont le pilote a été capturé selon des informations. Des experts de questions internationales vont faire vivre le débat d'aujourd'hui, tout à l'heure, juste après ce reportage. Reste avec nous, je vous prie.
C'est une première au terme d'une série de chasses aux drones US spectaculaires dans le ciel de Marib, signe que la libération de cette province pétrolifère, qui abritait jusqu'ici le QG Riyad, Washington, Londres, est définitivement entrée dans sa phase finale. Quelques heures après la reprise par Ansar Allah d'Al-Abdiya, ce district du sud de Marib, et ce en dépit de 40 frappes aériennes, en l'espace d'à peine quelques heures, un avion de la coalition, visiblement un F-15, a été abattu par la DCA de la résistance, signe que le ciel de Marib, le théâtre cet été de l'interception et la destruction d'au moins une douzaine de drones US de type Global Hawk ou encore Scan Eagle, est placé désormais sous le contrôle strict des radars de la résistance ainsi que de leurs missiles intercepteurs, de type de l'avion et de la DCA qui a visé l'appareil. On ne sait rien encore, mais le pilote a été capturé vivant. L'info a été annoncée par le vice-gouverneur d'Al-Baïda, Nasser Al-Wabani, ce vendredi sur son compte Twitter, où il dit qu'il s'agit d'un avion de chasse qui avait été abattu au-dessus de la zone d'Al-Abdiya, ce qui suppose que la résistance l'a abattu en pleine opération de progression dans la zone. Au fait, les missiles 358 d'Ansar Allah, ce type de drone DCA, sont désormais pleinement actifs dans le ciel de Marib, la destruction d'un F-15 signifiant de son côté que la bulle de la défense aérienne s'étend encore davantage. Des images de ce gain militaire majeur ont fait surface dès le vendredi soir sur les réseaux sociaux qui montrent les combattants d'Ansar Allah déployés dans le centre du quartier d'Abdiya. Signe des temps, parallèlement à la publication de ces photos, des images ont mis en scène la désertion en masse des forces saoudiennes dans le sud de Marib. Des dépanneuses et du matériel militaire ont été transportés de Marib à destination de la région d'Al-Wadiya, située entre les provinces d'Hadramaout et d'Al-Jawf, limitrophes de l'Arabie saoudite. Mais quelle importance stratégique pour ce gain ? La reprise de Rabat et d'Al-Abdiya, soit deux localités du sud de Marib, réside dans le fait qu'elles se placent dans le triangle Marib, Al-Baïda, Shaaba, et que leur reprise permet une totale maîtrise sur trois fronts du sud, du nord et du nord-ouest de Marib, soit un encerclement total.
Vous regardez l'émission Le Débat depuis Téhéran. À présent, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur notre plateau nos deux experts des questions internationales, en commençant par M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à mon collègue de conseil de public et bonjour à tous vos téléspectateurs.
Un plaisir de vous recevoir, Luc Michel. Un grand bonjour à M. Philippe Hugon, reporter de guerre et expert des questions internationales qui nous joint avec depuis Paris. Bonjour, M. Hugon.
Allô?
Ah, excusez-moi, M. Pierre Dortiguier est avec nous depuis... Oui, M. Dortiguier, bonjour. Vous êtes géopoliticien et politologue depuis Toulouse. Merci d'être avec nous, Pierre Dortiguier.
Oui, en effet, j'étais M. Philippe Hugon, mais n'est pas disponible maintenant. Et je suis très, très heureux, bien sûr, de participer au débat et de retrouver M. Luc Michel.
C'est un débat qui est prometteur, car il s'agit du Yémen. Ma première question va s'adresser à M. Luc Michel. Alors, la coalition Riyad, Washington et Londres a perdu la quasi-totalité du contrôle de la région du sud de Marib, une province pétrolifère extrêmement importante pour la coalition. Que dites-vous?
La guerre du Yémen, elle est en train de mal tourner vers les alliés occidentaux. C'est bien ce qui est la seconde guerre du Proche-Orient après la Syrie. Et puis comme la Syrie est issue de l'échec du soi-disant printemps arabe, elle voit vraiment le naufrage de toutes les ambitions saoudiennes. De plus en plus, donc, depuis que ce soit Sarala qui a pris le contrôle des opérations, la défaite de Saoudien se profile. La prise de contrôle de Marib, elle est très importante, puisque c'est la maîtrise du pétrole de l'île qui est en cause et qui va être perdue par les Saoudiens. De plus, la zone est stratégique et elle prépare une coordination parfaite des forces de Sarala. On voit que ce qu'on appelle la guérison des trois fronts iraniens au Yémen est exactement comme ça se passe dans d'autres pays. En Iran particulièrement, on voit que c'est un succès, et c'est un succès qui fait reculer la guerre.
Oui. Merci pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître celle de M. Pierre Dortiguier. Qu'en dites-vous, M. Dortiguier?
Oui, en effet, je reprends la conclusion de M. Michel, qu'il s'agit là, évidemment, d'un succès, qui fait reculer, un succès stratégique qui fait reculer l'adversaire. Il faut voir maintenant quel est le camp de l'adversaire. C'est-à-dire, vous avez d'abord, dans ce qu'on pourrait appeler les clients de l'Arabie Saoudite, ou qui se reposent sur elle, dans le Yémen, vous avez des clans qui sont très, très opposés les uns aux autres, qui ne peuvent s'unir. Et d'autre part, il y a aussi, je crois que c'est un des points importants de notre débat, une attitude différente, certainement des États-Unis, envers l'Arabie Saoudite. Cette attitude différente a été se manifestera certainement par, non pas une... un lâchage de l'Arabie Saoudite, qui est toujours cette colonie américaine depuis le début, mais certainement un manque d'approvisionnement militaire et autres. Je ne crois pas que les Américains aient intérêt, avec la politique de Biden, qui suit en un certain sens la politique de Trump, ont intérêt à s'investir dans une guerre. Je crois même qu'ils pourraient aboutir, disons, ils ont à mon avis une carte à jouer, qui est une carte malheureuse, bien sûr, c'est la division du Yémen. Je crois que ces succès sont une chose, les succès de la résistance d'Ansarallah sont une chose, en effet, une chose qui est remarquable, mais en même temps, disons que si les Américains et leurs alliés saoudiens sont vaincus sur le terrain militaire, ou affaiblis considérablement par l'attaque des drones, de leurs drones, etc., je veux dire, attaques dirigées contre leurs drones, tout ça par la DCA et la chute de cet avion-là de F-15 est tout à fait significatif à cet égard, ils peuvent jouer aussi une carte politique. Une carte politique qui est un peu ignoble, bien sûr, mais qui consiste à maintenir divisé le Yémen. Je crois que ces plans échoueront, mais à mon avis, nous pouvons nous attendre à la transformation de cette guerre, c'est-à-dire, disons, à ce qu'elle soit véritablement une guérilla, que l'Arabie Saoudite investisse moins dans le soutien de ses clients et que, disons, que la guerre se prolonge. C'est cela, à mon avis, qui est grave pour ce pays qui, on dit chez nous dans la presse, qu'une personne sur 8 est déplacée, qu'il s'agit là d'une situation catastrophique. Est-ce qu'il peut y avoir une solution militaire rapide? Disons qu'il le faudrait, mais je ne pense pas que cela soit le cas. Les négociations de l'Arabie Saoudite avec la République islamique d'Iran sont une chose, qui, à mon avis, doivent influencer aussi la politique de l'Arabie Saoudite et reconsidérer, disons, ce qu'elle peut de sa politique traditionnelle envers le Yémen. Je crois aussi que ces négociations sont possibles à cause de la résistance yéménite. Mais d'autre part, il faut bien tenir compte aussi de la politique américaine, c'est-à-dire de peut-être un renouveau de la stratégie américaine, une adaptation peut-être à la concurrence qu'elle a avec la Russie et la Chine. Et aussi, je dois dire que, c'est une tout à fait une opinion subjective, bien sûr, je pense que les États-Unis ne s'engageront pas à fond pour soutenir justement l'Arabie Saoudite. Je crois que sans se retirer, ils diminueront leur présence au profit de la continuation, disons, d'une sorte de guérilla qui épuisera le Yémen. C'est une attitude de lâche,
d'accord,
bien sûr, mais je crois qu'elle est envisagée.
Tout à fait. Luc Michel, vous êtes avec nous depuis Bruxelles. Rebonjour. Notre liaison a été coupée. Alors, Pierre d'Ortiguier pense que la coalition, la soi-disant coalition Riyad-Washington-Londres, cherche à tout prix de diviser complètement le pays. Alors, comment va profiter cette division à la coalition ?
Écoutez, il y a deux choses à prendre en compte. Il y a tout d'abord ce qu'on peut appeler une géostratégie du chaos du côté des Saoudiens. Mais également, il faut prendre en compte que les gens qui ont tiré les barreaux du feu de la guerre du Yémen, ce sont les Émiratiques. Les Émiratiques, qui étaient des alliés secondaires des Saoudiens, ont émergé de la guerre du Yémen comme une grande puissance maritime ultra-socratique. Cette puissance rayonne depuis les ans des Saoudiens. Et surtout, quand même, lui, elle est alliée à la puissance maritime française. Il se cause aujourd'hui une politique d'occupation par la guerre des ports du sud du Yémen, dans lequel ils veulent réaliser les avantages de la possession du sud du Yémen, telle qu'elle existait dans les années 60, mais que Gorba est présente dans les ports de la Somalie, du plus grand de Somalie, où elle est capable d'apporter moyens financiers. C'est cela qu'il faut retenir. L'agenda stratégique des Émiratis, il est différent, évidemment, de celui des Saoudiens. Le Yémen n'a pas seulement à prendre avec les Saoudiens et les Américains, il y a également ce qu'on peut appeler la stratégie d'alliance Émiratis. Il faut aussi savoir qu'en Libye, les Émiratis ne sont pas du côté américain, puisqu'ils soutiennent Haftar et les Calentités.
Oui. Pierre d'Ortiguier, j'espère que vous avez pu entendre ce que...
Il a fait. C'est très précieux ce qu'a dit M. Michel, comme toujours, mais vraiment très précieux. Malheureusement, je ne l'ai pas très bien entendu à cause de la... à cause du son.
Oui, Pierre d'Ortiguier, tout à l'heure, vous avez évoqué la question de Riyad, qui, oui, c'est une première, a demandé à Téhéran de jouer un rôle de médiateur pour... arrêter la progression des outils. Que pensez-vous?
Oui, c'est tout à fait compréhensible de la part de Riyad. Mais Riyad sait très bien que, en effet, elle peut penser l'obtenir. Mais ce n'est pas réaliste. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, derrière ce langage, disons, cette négociation, disons, qui n'est qu'un point de départ, se cache, il faut voir la finalité, le but. Le but, c'est que ce que cherche l'Arabie Saoudite, ce qu'elle peut espérer, c'est une modification du conflit et non pas un arrêt du conflit. Elle peut, disons, modifier, disons, la résistance qui lui est faite au Yémen, elle veut l'adoucir. Elle pense que l'intervention de l'Iran va dans ce sens. Mais quand même, l'Arabie Saoudite est réaliste et ses conseillers américains aussi. Ils savent très bien que ça ne peut pas être obtenu de cette façon. C'est une la négociation. Il faut voir où. Disons, la direction, non pas des arguments d'une négociation, des arguments de départ, mais il faut voir l'orientation que veulent justement lui donner les Saoudiens et les Américains. Je crois qu'ils espèrent évidemment que la République islamique d'Iran, disons, ne soutiendra, diminuera son soutien, oui, mais ne peut pas non plus. Ils savent très bien que politiquement et de d'autres manières, ils ont affaire quand même à une résistance, à une opposition très forte, très armée, très aguerrie au Yémen, dont votre exposition, justement, tout à l'heure, là, a marqué les traits, bien sûr. Donc, je crois qu'ils veulent orienter cette guerre. Ils ne veulent pas terminer cette guerre par une capitulation ou autre, mais ils veulent... Ils ont les seuls outils qu'ils ont entre les mains. Ce ne sont pas des outils militaires, contrairement aux apparences. Ce sont des outils politiques. Ils jouent sur la division, ils jouent sur les rivalités, ils ont l'idée que cette guerre est une guerre perpétuelle. Vous savez, moi-même, j'ai eu l'occasion de dire, disons que je me souviens de mon enfance aussi, mon adolescence, disons, de cette guerre que je suivais avec intervention égyptienne, je me rappelle, entre le sud Yémen et le nord Yémen. Et la place qu'occupait à cette époque-là dans le conflit l'Arabie Saoudite. C'est donc une guerre, en fait, ce qu'ils veulent empêcher, je crois, c'est la formation d'une, je parle du clan américano-saoudien, la formation d'un Yémen qui puisse jouer un rôle économique important dans la région. Et surtout, en fonction des... c'est quand même pas si éloigné que cela, en fonction des transformations de l'Asie, des transformations en particulier de du poids que fait peser l'économie chinoise. Je crois que les Américains, je sais bien que ça paraîtra éloigné à beaucoup d'auditeurs, mais les Américains sont préoccupés, nous l'avons vu par les événements qu'ils ont touchés en France, là, avec l'affaire des sous-marins, sont très occupés de cette affaire d'Asie, de cette affaire du containment, comme on dit, de la puissance chinoise. Et donc, je crois que ce qui se passe, les changements des mots que les Américains veulent imposer, y compris envers leurs alliés, voyez-vous, et les négociations qu'ils peuvent avoir avec la République islamique d'Iran, sont évidemment fonction de ce souci américain également, qui, à mon avis, devrait, entre guillemets, bien sûr, lâcher le Proche-Orient. Je crois que la nouvelle politique israélienne semble suivre la politique américaine, je le dis, et que tous les soucis américains sont justement dans cette zone du Pacifique. Je ne dis pas qu'ils ne s'occupent que de cela.
D'accord.
Mais ils ne peuvent pas, disons, intervenir sur deux plans différents. Ils sont obligés, peut-on dire, de faire des concessions. Et que la lutte des du mouvement Ansarallah, bénéficie quand même de cette nouvelle politique américaine, c'est-à-dire qu'ils peuvent tirer des avantages d'une résistance armée de plus en plus, affermie. Voilà. Il faut voir l'articulation des deux plans politiques et du plan, disons, purement militaire.
Oui. Luc Michel, Pierre Dortigui a parlé tout à l'heure de la modification de la guerre au Yémen. Est-ce que cette modification est due à l'avancée donc, de forces de la résistance d'Ansarallah qui ne cesse d'accumuler des succès en détruisant des drones et même récemment un F-15 dont le pilote a été capturé?
C'est le nouveau succès de la guerre hybride telle qu'elle est pratiquée par les Iraniens dans tout le Proche-Orient. Tant que la guerre du Yémen a été une guerre classique qui opposait des forces militaires à des forces militaires qu'on peut qualifier de paralytatiques au Yémen, évidemment, la différence de poids économique, financier, militaire des Occidentaux et des Saoudiens ne permettait pas la victoire. Depuis que la guerre asymétrique est menée, la guerre hybride, c'est-à-dire avec un acteur non étatique qui est Ansarallah, qui est l'équivalent yéménite du Hezbollah, évidemment, c'est une guerre multidimensionnelle qui prend des vitesses des Occidentaux. Mais moi, je ne partage pas l'optimisme du professeur Bortillier sur le retrait américain. Au contraire, contrairement à Donald Trump, Biden est prêt à passer à l'agression militaire contre l'Iran. Et ça va avoir des répercussions au Yémen. Il y a eu la visite de Nathalie Bennett, le premier ministre israélien aux États-Unis. Et ensuite, il y a eu la visite de Lapid, le ministre des Affaires étrangères, qui a rencontré Blinken il y a quelques jours. Les Américains ont précisé que toutes les options étaient sur la table concernant la reprise des négociations de Genève. Par toutes les options, ils entendent également l'inclusion de l'option militaire, c'est-à-dire des frappes sur l'Iran. C'est assez inquiétant et on veut craindre que, justement, pour se débarrasser du problème proche-oriental, les Américains le débouchent sur une politique de tout en avant. Cette nouvelle administration Biden-Kamala Harris, elle est beaucoup plus dangereuse que la précédente. C'est les mêmes dossiers, les mêmes alliances, mais ce sont des gens, ils l'ont démontré dans le passé. N'oubliez pas que les démocrates, ce sont les gens qui ont fait l'agression contre la Somalie libyenne, contre la Syrie, qui ont démultiplié les agressions. Ce sont des gens qui reculent pas devant la guerre.
Pierre Dortiguier, votre réaction, je vous prie. Est-ce que la politique de Biden est plus dangereuse que celle de Trump?
Oui, je reconnais en effet que s'il y a une adaptation de la stratégie de M. Biden et de son groupe démocrate que vient de désigner M. Michel. Il est certain que politiquement, disons, enfin, les intentions, si j'ai pu dire, de politique de ce groupe de Biden sont beaucoup plus dangereuses que celles de l'administration précédente. En effet, ils sont d'ailleurs tout à fait dévoués aux intérêts sionistes, bien sûr, beaucoup plus. Ils sont beaucoup plus, disons, hypocrites. C'est-à-dire que ils peuvent, à la fois quand ils se retirent quelque part, comme ils l'ont fait de l'Afghanistan, par exemple, c'est pour y laisser, si je puis dire, des pièges. Et leur hostilité, et M. Michel a raison, ça, là-dessus, ça a été toujours ma conviction, le camp démocrate, disons, aux États-Unis, pour être clair, est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus agressif que ne peut l'être le clan républicain. Ça, disons, je fais la distinction démocrate-républicain, qu'on peut quand même faire, qui est superficielle, disons, mais elle répond quand même à une réalité. Et donc, il faut se méfier, c'est-à-dire qu'il y a des concessions, à mon avis, à court terme, de la part de l'administration Biden. Mais cela n'empêche qu'il y a toujours une visée offensive à long terme. Et je reconnais, en effet, sur le plan, j'allais dire subjectivement, de façon de dire, mais que c'est une administration dont il faut se méfier. Bien sûr, elle est plus agressive, mais elle est aussi plus rusée, voyez-vous. Et donc, à ce sens, elle est à craindre. Mais en même temps, disons, elle montre qu'elle doit montrer quand même certaines faiblesses. Et le propre d'une résistance, vous savez, c'est comme on dit, c'est de tenir bon. Donc il faut que ceux qui négocient avec les Américains, ceux qui négocient quand on négocie avec l'Arabie Saoudite, il faut comprendre qu'effectivement, il y a ce noyau des États-Unis, ce noyau démocrate, il faut le dire, avec ou sans guillemets, qui est effectivement très dangereux, et à court terme, et surtout à long terme. Mais il est possible que dans le court terme, il y ait en effet, disons, des accommodements possibles, mais ceci ne supprime pas, en tout cas, même les succès militaires, disons, dont nous parlons, dans le Sahara, ne supprime pas l'agressivité et les projets d'agression, bien sûr, qui sont, comme on dit, vieux comme ce système américain, qui, vous savez, avec les démocrates, justement, avec Roosevelt, a donc, mis dans son camp l'Arabie Saoudite et a pris, disons, le Proche-Orient pour son propre territoire, voyez-vous, voilà, pour un territoire d'exploitation.
Luc Michel, Anne Sarala tient bon, n'est-ce pas?
Anne Sarala tient bon et elle a la seule stratégie possible. Il faut savoir qu'il faut une pression maximale sur le maillon faible de la coalition occidentale. Le maillon faible, ce ne sont pas les États-Unis, ce ne sont pas les Émiratis avec leur alliance avec Paris. Le maillon faible, ce sont les Saoudiens. Les Saoudiens se rendent compte, comme on disait en France au XVIIe siècle, qu'ils ont travaillé pour le roi de Prusse, au Yémen, pour leur rivaux Émiratis. Et donc, il faut continuer à mettre la pression. C'est là-bas que l'espoir est à attendre.
Oui. Tout à fait. Eh bien, Luc Michel, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes géopoliticien depuis Bruxelles. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci à M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse, d'avoir donc répondu à nos questions de l'émission Le Débat. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
La grande stratégie de la France en Afro-Eurasie émerge peu à peu. La France devrait rejoindre la tendance vers la multipolarité et intégrer le concept de coopération mutuellement bénéfique si elle veut conserver son actuelle influence sur diverses régions d'Afro-Eurasie et l'étendre vers de nouvelles zones. La France se visualise comme restant une grande puissance influente pour le XXIe siècle. Et dans ce but, elle est en train de formuler une grande stratégie pour avancer vers cet objectif sur toute la région afro-eurasiatique au cours de cette période. stratégie indo-pacifique de Paris s'est vue saboter sans prévenir, donc par ses propres alliés, de Canberra et de Washington suite à l'annonce surprise de l'AUKUS avec Londres. La France n'a pas seulement perdu un contrat de 90 milliards de dollars australiens conclu avec l'Australie, mais chose tout aussi importante, elle ne peut désormais plus compter sur le pays continent comme principal partenaire régional. Et en réponse, la France essaye de remplacer le rôle de l'Australie par l'Inde dans cet espace géostratégique. En partant plus vers l'ouest, la région suivante où la France se voit comme exerçant une influence centrale est la Méditerranée orientale. La Grèce joue le rôle de l'Australie et était supposée donc tenir pour la région Indo-Pacifique, mais qui sera désormais tenue par l'Inde. Dans cet espace géostratégique, la France se concentre sur un équilibrage de la Turquie contre la Chine pour la région Indo-Pacifique. Elle espère prendre la tête d'une coalition d'États pensant de la même manière qu'elle afin de tirer des privilèges économiques et d'investissements en échange de sa coopération militaire et stratégique en contenant la menace perçue par cette coalition. C'est l'Afrique qui constitue le dernier front de la grande stratégie de la France pour le XXIe siècle et c'est bien là que la grande puissance d'Europe occidentale dispose des plus grands avantages pour des raisons historiques. Bien que la Russie ait pratiqué donc des avancées spectaculaires dans la région précédemment colonisée que la France considère comme la France-Afrique et considère comme sa sphère d'influence exclusive, Paris espère s'appuyer sur ses alliés au Tchad, dont elle dispose depuis des décennies pour répondre à cette tendance. On peut penser que la France ferait mieux de s'inquiéter davantage de l'influence turque en France-Afrique que de l'influence russe, mais en tout cas, elle espère reconquérir au cours des quelques prochaines années la place stratégique qu'elle y a perdue. On trouve plusieurs points communs entre les grandes stratégies pensées par la France dans les trois régions de l'Indo-Pacifique, de la Méditerranée orientale et de la France-Afrique. Tout d'abord, la France dispose d'une influence historique dans chacun de ces espaces. Deuxièmement, on y trouve à chaque fois une puissance en croissance qu'elle compte enrayer. Et troisièmement, la France espère pouvoir s'appuyer sur les pays régionaux partageant son mode de pensée pour parvenir aux objectifs susmentionnés. On trouve cependant plusieurs défis face à cette stratégie. Tout d'abord, l'influence stratégique de la France dans ces régions s'est érodée, c'est peu de le dire. Et deuxièmement, tous les pays de chacune de ces régions ne désirent pas contenir la puissance en croissance que la France considère comme une menace. Et troisièmement, ses partenaires pourraient ne pas désirer sacrifier leurs propres intérêts pour satisfaire la France. Cela signifie en pratique que la France ne peut pas s'appuyer totalement sur l'Inde, la Grèce et le Tchad pour contenir respectivement la Chine, la Turquie et la Russie. La Turquie dans les régions respectives de l'Indo-Pacifique, de la Méditerranée orientale et de la France-Afrique. Paris est en mesure de provoquer des torts à chacun de ces pays et les influencer grâce à diverses méthodes d'incitation économique à jouer un rôle plus important à cet égard, mais elle doit également prendre en compte la diminution relative de ses capacités d'équilibrage et d'influence face à celles de la Chine, de la Russie et de la Turquie. La France est une puissance militaire disposant d'une économie impressionnante, d'un soft power attirant et d'une influence historique dans toute l'Afro-Eurasie, mais ses capacités d'équilibrage diplomatique ne sont pas à la hauteur. C'est là le principal problème de Paris, qui ne dispose pas de l'expérience de la pratique d'une telle politique d'équilibrage. Tout ce que Paris sait faire est d'exercer une influence hégémonique, relayée par des partenaires juniors et des mandataires plus faibles qu'elle. Elle a d'ores et déjà accepté l'érosion de son influence dans chacune des régions susmentionnées, et ce n'est que récemment qu'elle s'emploie à la reprendre du fait des dynamiques de la nouvelle guerre froide. Les stratèges français se sont laissés aveugler par leur orgueil démesuré et n'ont pas perçu leurs propres défauts qui les ont amenés au revers que l'on a vu. S'ils ne tirent pas d'enseignement de ces échecs, la grande stratégie qu'ils projettent ne produira jamais tous les fruits attendus. Le premier renseignement est que la domination française sur ses partenaires régionaux plus petits a eu pour conséquence que ces derniers se sont rapprochés des rivaux de Paris pour soulager la pression qu'ils subissaient envers leur autonomie stratégique. Ce n'est pas suite à quelques sournoiseries de la Chine, de la Turquie ou de la Russie dans ces régions que ces pays ont pratiqué leur percée au cours des dernières années. Ce sont au contraire les pays partenaires de la France, qu'ils fussent ou soient encore partenaires, qui sont volontairement entrés en coopération avec ces pays. La France ferait bien de respecter les intérêts souverains de ses partenaires régionaux plus faibles qu'elle, afin de ne pas les contraindre involontairement à la contrebalancer aussi activement. Pour que Paris comprenne cela, encore faudrait-il qu'elle accorde la moindre valeur et le moindre respect à sa propre souveraineté, ce qui n'est plus le cas depuis des années maintenant. L'idéologie européiste a fait son œuvre. Le second enseignement est étroitement relié au premier et s'applique principalement à la France-Afrique. Il faut voir que la France continue de croire à son auto-supposée supériorité culturelle comme fondement de son soft power afin de maintenir ses influences. Nombre d'Africains parlent le français du fait de l'héritage du colonialisme et non du fait d'une quelconque attirance envers cette langue. Et c'est pour des raisons économiques qu'ils émigrent vers la France, pas du fait qu'ils préfèrent sa culture à la leur. La croyance de la France envers sa supériorité culturelle constitue officieusement une raison centrale de l'identité de ce pays, mais elle apparaît comme arrogante, condescendante et même raciste. Les pertes sont déjà immenses dans les cœurs et les esprits à cet égard. Ensuite, la France doit faire montre du même respect pour tous ses partenaires, ce qui ne peut se produire que si elle a bien compris les deux premiers enseignements. Cela s'applique également à des pays plus grands comparativement comme l'Inde. Et si certains de leurs dirigeants peuvent présenter des motivations personnelles intéressées à s'associer avec Paris contre des pays tierces, la France ne devrait jamais perdre de vue le fait qu'ils restent sans doute des membres patriotes dans leur administration permanente militaire, de renseignement et diplomatique, donc les États profonds. Ces forces pourraient entrer en résistance contre leurs dirigeants si ceux-ci mettent en danger leur sécurité nationale en provoquant d'autres pays sur ordre de la France. Sur la base de cet enseignement, la France ne devrait jamais considérer comme un acquis son partenariat avec un autre pays, quel qu'il soit. Les membres patriotes de leur État profond pourraient s'employer à stopper la mise en danger irréfléchie de leur sécurité nationale et pourquoi pas au travers de coups d'État. Il existe également une probabilité que ces mêmes forces puissent provoquer des désordres de révolution de couleur patriotique contre leurs dirigeants manipulés par la France. La France ferait également bien de ne pas éluder la possibilité que ses alliés de papier, les États-Unis et le Royaume-Uni, viennent braconner sous son nez et lui subtiliser ses partenaires, y compris si cela implique de racheter les dirigeants corrompus déjà vendus à Paris. Enseignement supplémentaire, la France ferait bien de ne pas conserver l'illusion de l'existence de sphères d'influence exclusives et surtout pas en France-Afrique. Paris devra inévitablement venir à accepter l'influence d'autres pays dans les régions qu'elle a pu considérer comme sous sa seule coupe. Ceci comprend aussi bien les alliés comme les États-Unis que des pays perçus comme rivaux tels la Chine, la Russie et la Turquie. La France devrait envisager avec pragmatisme de lâcher du terrain sur une partie de son influence passée de manière contrôlée afin de constituer des partenariats plus efficaces avec ses alliés et d'explorer des manières donc créatives de se rapprocher de ces pays jusqu'ici perçus comme rivaux. Tout ceci nous amène à un enseignement final, qui est que la compétition à somme nulle et contre-productive est dépassée. La France ferait bien de faire sienne la tendance multipolaire portée sur une coopération mutuellement bénéfique, afin de conserver ses influences en place en diverses régions d'Afro-Eurasie et de les étendre à de nouvelles zones. Si elle tente de s'agripper à ses perspectives très compétitives, elle ne fera qu'ignorer les enseignements précédents et répétera les mêmes erreurs qui ont déjà découlé sur une perte d'influence de la France dans ses espaces géostratégiques.